Hey ho, let's go, c'est Plumet Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, une émission cette fois, une nouvelle fois, deuxième fois de suite qu'on est constitué du duo initial, les patères de l'émission, les anciens.
Tout à fait Thierry, parce que je ne sais pas pourquoi je vous appelle Thierry, il vient de nous quitter à la radio, mais c'est vrai que tout le monde a tendance à s'en aller en ce moment. Peut-être que ce sera notre tour à les savoir.
Ouais, on a dit au gamin de la boutique dont on taira le nom de qui s'était puni, on restait tous les deux, intimité.
Voilà. Et donc, on va faire de la chronique, parce que bientôt, ça va chier, ça va être Quai des Bulles, comme vous le savez. Nous, on n'hésite pas à vendre notre cul, donc on va naturellement essayer d'inviter les gens
de Quai des Bulles. On va tailler la route.
Voilà. Il y a des gens toujours... vous savez qu'aux États-Unis, on a le droit, le lobbying est autorisé.
Oui, bien sûr.
Et en plus, nous, on n'est pas un parti politique. On n'est que juste des gens qui avons envie d'avoir un t-shirt propre, une casquette sur la tête et un briquet pour allumer ses clopes.
Franchement, c'est pas abusé.
C'est pas abusé. Quand tu vois, vous avez vu les privilèges des anciens premiers ministres, hein?
Ouais, clairement. Mais bon, on va pas se fâcher, mais quand même.
On est des nains, nous. Mm-hmm. Donc, du coup, on va parler de livres qu'on a lus. En plus, j'en ai des super bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chronique. Alors, effectivement, ils sont toujours super bien, mais là, je dirais qu'ils sont super, super bien.
Ça, c'est du spoiler, mon Roger. On voit qu'il y a du métier. On voit qu'il y a du métier.
Ça, si vous verriez comment on est récompensé ici.
Ouais. Donc, de la chronique, un peu de news, bien sûr. On a toujours quelque chose à dire. Tonton Roger a toujours quelque chose à dire. Et puis, de la musique. Je crois qu'ils sortent un nouvel album. En tout cas, c'est marrant. Dans votre programmation, on retrouve The Eyes. We'll be right back. J'ai envie de dire Forever the Hives. Forever voilà. The Hives. Sachez que le monde de la BD est toujours vivant et actif. Il y a plein de projets qui se lancent. Et j'ai vu sur les financements Ulule, des fois je vais voir un peu s'il y a moyen de quelques projets intéressants
je
à soutenir.
Je sais ce que vous allez dire.
Ouais, la revue
555.
Ouais.
J'avais l'article devant les yeux.
C'est vrai,
alors
ça a l'air bien.
Vous êtes le pomme, alors allez-y.
Non, non, mais ça a l'air bien. C'est un.
Ah oui. On parle pas que des morts, on parle des naissances.
Ouais, c'est bien. Il y a des petits jeunes qui se lancent. Enfin, là, ils sont six auteurs qui se lancent dans
et
un
autrice.
Projet. Ouais, auteur et autrice, vous avez raison.
Faites qui se lancent dans un projet. Je rappelle. On est au 21e siècle. Bon, vous voulez un hashtag. Vous voulez un hashtag, comment on appelle ça, MeToo, c'est ça que vous voulez?
Non. Pardon,
donc,
si
recommencer.
J'ai offensé quelqu'un.
Donc, il y a des autrices et
des auteurs.
Voilà.
Ils sont six. Ils sont six et ils se lancent effectivement dans un projet d'une revue format A4, 145 pages, 100% indé.
Ouais, quand même.
Ouais, et c'est marrant. Alors, au début, je comprenais pas pourquoi c'était revue avec 3 V. Et en fait, en lisant effectivement, en parcourant un peu ce qui se disait, j'ai compris que c'était V pour vitalité, un V pour variété et un V pour volonté. C'est marrant.
Ah, j'aurais dû rajouter visibilité.
Et du coup aussi pour visibilité, c'est clair. Donc ils ont en financement collectif Ulule, actif jusqu'au 3 octobre. On vous mettra le lien sur le blog de Plume et Pinceau. Allez voir ce blog, il est vraiment très très bien.
Et sur le blog, on voit des extraits de planches, parce que moi, j'ai pas ça. Alors, j'ai pas eu le temps, effectivement. C'est un article que j'ai
piqué. Si tu vas sur les réseaux sociaux, tu tombes sur, et notamment sur le financement Ulule, tu tombes sur le projet et tu vois des planches, ouais.
Et ce qu'il y a de bien, en plus, c'est qu'ils ne se contentent pas, d'après l'article d'Actua BD, ils ne se contentent pas d'en publier une histoire de l'autrice ou de l'auteur, mais en plus, il y a tout un dossier, autour de l'auteur ou de l'autrice, ce qu'il aime, et ce qui, voilà, etc., etc. Et en plus de ça, alors ils ont des noms rigolos. Alors je ne sais pas si c'est une des conditions pour appartenir à ce nouveau groupe, mais on commence par Alco Fribas Bozomaxer. C'est hein, quand même. Et j'aime bien le dessin. Alors regardez, on dirait du Willem, cette espèce de vilain chien sur fond rouge. L'autre autrice ou auteur, je ne sais plus, le sans nom. Voilà.
Faites gaffe à ce que vous dites.
Ah, ben ouais, ouais. J'aime bien aussi, regardez ça, le Pépé
plus rond
Antoine,
et plus
Antoine,
épais.
Laurine Lestra propose avec La Porte une histoire issue d'un récit choral. Et comment, j'aime bien le. Ouais, en tout cas, au niveau graphique, ça a l'air d'être hyper, hyper original et intéressant. Mm. Et donc voilà, l'occasion de découvrir deux nouvelles autrices et auteurs. Et bah ouais, c'est très.
Et de les
très
soutenir
bien.
Surtout, c'est ça, bah, c'est ça ouais. L'idée.
Mais alors, je crois que c'est lancé, je sais pas.
Oui,
si
oui, c'est lancé, c'est jusqu'au 3 octobre. Okay. Et puis, selon votre niveau de soutien, il y a des contreparties, des trucs à gagner. Vous voyez, des briquets. Non, je déconne, il n'y a pas de briquets. Mais dans l'esprit, il y a des briquets pour ceux qui soutiennent la cause.
Ouais, d'accord.
La revue 555, la revue avec 3 V.
Eh ben, moi, je dis que c'est une bonne.
C'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Le monde de la BD vivant.
Alors, de quoi vous voulez que je vous parle? Parce que vous m'avez un peu sponté, parce que
et là, je vous ai pris en contre.
Bah, c'est surtout que j'ai toujours pas réparé ma putain d'imprimante. Il faut que je la branche et que je la redébranche. Ou je la débranche et
moi,
que je la branche.
Mais moi, j'adore vous voir jouer avec votre téléphone, là,
moi,
comme un adolescent.
Ça me saoule, parce
c'est
que
beau.
Comment, bah non.
Forever Young.
Alors attendez voir de quoi je peux vous parler. Moi, c'est pas très bon pour qu'on puisse continuer à rester j'ai un article sur la bande dessinée érotique. Selon un article paru dans le Huffington.
Le Huffington Post.
Ouais. .fr. Huffington Post. Eh bien, on vit pas les temps de gloire pour la BD pornographique. Érotique, parce que vous rappelez, vous en connaissez un morceau, puisque j'ai pas dit que vous aviez fini mort lors d'une soirée Chemtex avec des garçons, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis juste que avec moi, nous avons deux concerts, comment dirais-je, effectivement, réalisé une exposition, une conférence sur la bande dessinée érotique et pornographique.
Il y a quelque temps, il y a prescription.
Ouais, il y a prescription. Sauf que ça change, comment ça devient. Depuis la concurrence, on en avait déjà parlé, hein, la concurrence de la vidéo, etc., d'Internet.
Ça a tué le petit métier, quoi.
La bonne vieille BD de Mich à l'ancienne, effectivement. Et puis, sans compter qu'en plus, faire une BD de Mich aujourd'hui, entre MeToo d'un côté et l'autre côté, les fondus,
Satan,
ouais,
Satan.
Les fondus de la croix et du croissant. Et ben la Torah réunie, et ben effectivement le marché, le marché se plisse. C'est un petit anus tout fripé, mais bon, d'après l'article paru dans le Huffington Post, ça peut aussi permettre, et ben peut-être aussi, si c'est la fin des BD de cul à la papa, pour reprendre un intertitre de cet article,
ah ouais,
très intéressant, et ben on peut avoir
renouveler le genre, quoi.
Ouais, une émission, une dimension par contre beaucoup plus féministe, notamment pour dénoncer le patriarcat. Alors, ah, ça y est, je vais t'attaquer.
Non, mais c'est la guerre culturelle est vraiment dans partout, quoi.
Les temps sont rudes. Ouais. Alors, moi, c'est pour ça que je conseillerais quand même aux amateurs de
faire du stock.
Bah, oui, c'est un peu l'excuse que j'avais trouvée, moi, lors de la réalisation de cette conférence. Faire des stocks, expliquer à ma femme que c'était normal que j'ai des tonnes de bouquins de Mich dans la chambre. Hein, je sais pas comment vous avez expliqué ça à votre chérie, vous, quant à vous, mais.
Ah, j'ai dit que j'étais avec toi, ça suffit.
Ça m'a rassuré. Et effectivement, le marché se plisse. Voilà, le marché se
c'est
plisse.
C'est plus ça que tu voulais dire.
Voilà, le okay. marché se plisse, même si effectivement. Mais bon, ça me botte, c'est mort, quoi.
Ouais, d'accord. Ok, ouais. C'est bien dommage.
Voilà, c'est fini.
Sinon, Paris, maintenant, c'est à portée de main, Paris.
Paris, ce n'est plus Paris.
En tout cas, à la Maison du Culture du Japon à Paris, du 15 octobre, on est un peu en avant jusqu'au 24 janvier 2026, il va y avoir une expo que j'en conseille, en fait. C'est celle, une expo autour de Isao Takahata, cofondateur du studio Ghibli. Il y a toute une rétrospective qui va avoir lieu avec des celluloïdes et tout ça pour à partir de 7 €. C'est pas super cher. Et je recommande ce monsieur parce que il est à l'origine d'un manga. Enfin, c'est une adaptation d'un roman japonais, mais je pense que tu l'as vu aussi. Moi, il m'avait laissé quand même pantois. C'était Le Tombeau des Lucioles. Tu te souviens de ce manga terrible?
Des
bombardements sur Tokyo.
J'ai vu le film Le Tombeau des Lucioles, mais j'ai pas lu le manga. C'était un manga à l'origine?
Alors, c'est un roman et lui, il est responsable de cet animé que tu as vu et que j'ai vu et qui est assez terrible.
Je n'ai jamais vu quelque chose
de deux gamins sous les bombardements américains sur le Japon et le moment de la défaite avec les bombes incendiaires et tout. Ah, c'est terrible. Et puis le frère, la sœur, quoi, une histoire terrible. Ouais. Bref, j'avais retenu le nom de ce gars et donc je me dis que cette petite exposition à la Maison de la Culture du Japon à Paris, ça peut être intéressant à voir. Donc allez-y. Il a scrollé un nouveau truc.
Oui, j'ai un nouveau truc. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse en deux fois, on se met un petit disque ou quoi?
Moi, c'est bon, j'ai fait le tour de mes news, donc si vous voulez.
Bon, bah, une dernière pour la route alors.
Une dernière pour la route.
Tiens, encore un truc piqué chez Actua BD. Fini les belles saisons de l'après-Covid pour les marchands de BD et marchandes, encore une fois. Eh bien, le secteur le plus touché, mortellement, peut-être, c'est le secteur de la BD alternative. On avait parlé des éditions Rookmout. Ouais. Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même. Les éditions Rookmout, j'ai lu un article le jour, envoyé un communiqué de presse des éditions Rookmout, qui nous disent que, eh bien, vous vous rappelez, on les avait eus sur le plateau à Quai des Bulles l'année dernière, sur notre dernier plateau.
Tout à fait.
Et on leur avait, il avait, le patron de Rookmout avait un magnifique t-shirt illustré par Soulcier. Avec le grand roux, et on lui avait essayé de lui dire qu'un peu de merchandising, ça peut aider. Eh ben oui, ça y est, il se lance dans le merchandising. Ah. Il y aura plein de choses, des pins, des mugs, et surtout des t-shirts.
Est-ce qu'il y aura des fausses barbes rousses?
Ah, c'est une idée, il faudra leur proposer ça. Il doit y avoir des Chinois et un bagne chinois qui fait dans la
barbe. Qui peut vous faire ça pour pas cher.
De la barbe rousse, effectivement. En tout cas, moi je dis, les t-shirts, moi je dis, c'est une bonne idée. On l'avait dit, alors c'est rigolo parce que dans le communiqué de presse, oui, on nous a tanné pendant les festivals pour. Alors ils font plein de choses. Et naturellement, alors par contre, plutôt qu'ils vont resserrer un peu la production. C'est-à-dire que là, ils vont produire moins de nouveautés. Et le problème, c'est que Jeune Chien Fou d'édition, ils n'arrêtaient pas de publier de nouveaux titres.
Ça s'énerve.
Et après, il y a des stocks d'invendus. Et puis, il y a des dettes, etc. Donc là, ils nous l'ont promis, juré. Il leur reste encore des pépites dans les fonds de stock de chez Rookmood. Donc, effectivement, vous avez un cadeau à faire. N'hésitez pas d'aller sur le site de Rookmood. À part deux briquets, je tiens à vous le dire quand même, chez auditrices auditeurs, on n'a jamais gagné que deux briquets avec eux. Mais quel briquet! Et voilà. Alors, je sais pas. Par contre, ils en font pas de briquets. Il doit y avoir un problème sur le briquet.
Il y a de moins en moins de fumeurs, peut-être. Ah oui, il y a peut-être de moins en moins de fumeurs. Les gens sont sains maintenant.
Oh, putain, on se fait chier. Plus de bouquins de cul, plus de briquets. Bref, les éditions Rookmood, ça va mieux. Ce n'est pas tout à fait le cas des éditions ça et là. Alors, vous connaissez
sûrement. Ah, vous étiez positif et vous retombez dans vos travers.
C'est bien de ma faute parce qu'après, on avait parlé aussi des requins marteaux qui avaient appelé à l'aide. Et apparemment, l'appel à l'aide avait été entendu. Et maintenant, c'est ça et là. Alors vous allez dire, oui, c'est comme les punks à chiens place de Rennes. Je veux dire, on donne à un et puis après, on y lâche la paye.
C'est comme les cormorans, quoi.
Ouais, voilà. Et effectivement, le problème, c'est que c'est surtout des éditrices et des éditeurs qui essayent de faire dans des... pas forcément des trucs qui vont bien se vendre. Je sais pas, moi, faire une BD sur les pompiers ou les médecins ou les profs, par exemple. Je dis pas ça pour dire du mal, mais effectivement, c'est sans doute plus facile à placer que certaines BD peut-être plus intimistes. Pas forcément toujours drôles, hein, parce que dans BD alternative, l'humour n'est pas là, forcément. Requin-marteau, oui, mais ça est là, pas forcément. Hein. Mais bon, c'était quand même un éditeur qui nous a fait connaître Uli Lust, Derf, Martin Panchaud, Marcelo Quintalia ou Solé Otero, vous voyez. Et quand même des auteurs qui ont été multiprimés à Angoulême. Mais malgré tout, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, ils avaient souscrit un emprunt pendant le Covid. C'est toujours pareil, il faut les rembourser, vous savez comment c'est. Négociation auprès des banques, demande de subventions qui n'arrivent plus, puisque vous savez ce qu'il en est des subventions aujourd'hui. Bref, les éditions, ça et là. J'espère que vous avez beaucoup d'amis et beaucoup de gens de votre famille afin de faire beaucoup de cadeaux. Donc je résume. Là, en proms, je dirais ça et là. Privilégier ça et là. Un petit coup de Rookmood quand même. Hein, un petit Rookmood, allez voir dans les stocks.
On ne faiblit pas sur le Rookmood.
Voilà, les requins marteaux. On ne laisse pas tomber les requins marteaux non plus. Voilà. Voilà, c'est les trois maisons qu'il faut soutenir en priorité.
Impeccable. Alors, interlude musicale.
Yes.
Il va falloir que vous reconnaissiez soit le groupe qui interprète, soit le groupe qui a composé la chanson, puisque c'est une reprise. Vous êtes prêts?
Oui.
Allez, j'envoie.
Yeah.
The Fall rendait hommage aux Kings à travers ce morceau Victoria du précédent groupe. Du coup, quand vous avez pas trouvé.
Non.
Donc c'est moi qui commence.
Ouais, allez-y.
Ta. Alors, c'était un manga que j'attendais. J'avais vu passer des infos comme quoi il allait être republié. C'est un album de Shatoru Ishonomori. Il vient nous proposer June. June, ça signifie humble, modeste. Et en fait, c'est le prénom du personnage que l'on va suivre dans cet album. L'auteur, c'est un ancien assistant de Tezuka. Et vraiment, dans le dessin, ça va beaucoup se ressentir. Il y a des hommages, de toute façon, à Tezuka. Et on sent bien qu'il y a aussi une imprégnation du style. Mais il faudra pas réduire cet album à juste du Tezuka. Parce qu'en fait, cet assistant de Tezuka nous propose un album où il va montrer qu'il a une très grande palette graphique. Parce que on va pénétrer dans un truc, moi, qui m'a fait beaucoup penser à Little Nemo, en fait. On va partir dans un monde, dans des tas d'aventures où à chaque fois on va pénétrer dans un univers avec June. Et tout ça, c'est de la métaphore du travail de mangaka et notamment de l'importance de l'imagination chez le mangaka. L'histoire va commencer. Ouais, June, c'est un jeune homme qui veut devenir mangaka et son père veut pas. Alors que le père lui-même est mangaka. On saura pourquoi il y a cette envie que le fils ne fasse pas comme le père. Il aspire donc à être ça. Et dans la première histoire, quasiment à la première vignette, il rencontre une jeune fille alors qui va être une espèce de petite fée. C'est une petite fille qui a la capacité de voyager dans l'espace et dans le temps. Et plus ou moins, elle va régulièrement venir au devant de June et l'emmener ou l'aider à pénétrer dans des tas d'univers qui sont des métaphores de ce qu'il vit et des situations qu'il a, quoi, des conflits qu'il a. Et vraiment, beaucoup de pages sont muettes parce qu'elles laissent vraiment place au dessin. Et je te dis, on part dans vraiment des tas d'univers différents. Vraiment, l'auteur, Monsieur Ishinomori, fait preuve d'une belle palette graphique. C'est très onirique, c'est hyper métaphorique, les traits sont très doux, il y a une inventivité formelle, c'est vraiment bien. Et à chaque fois, les histoires, enfin, tu rentres dedans direct, quoi. C'est plein de petites rencontres, tu vas partir dans des tas de trucs avec toujours un titre très poétique. Et c'est June ouvre une porte et il tombe sur la petite fille, alors qui des fois est grande, etc.
D'où le côté Little Nemo de Winsor McCay.
Ah ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est vraiment très très beau. C'est un one shot donc que les éditions Imo viennent donc de ressortir. C'est un album qui date de 67 initialement. Donc
Imo,
c'est vraiment,
vous dites.
Ouais, les éditions Imo qui fait vraiment un beau travail comme les Arts Noirs dans le style allons chercher des œuvres intéressantes ou alors du patrimoine pour nous initier à ce que c'est que le manga japonais. C'est vraiment très chouette. Couverture souple, tout en noir et blanc, et vraiment vous allez, faut se laisser emporter, quoi. C'est pas très bavard, c'est très visuel. Et vraiment, j'ai adoré cet album. June. À vous, mon bon Roger.
C'est noté. Alors, un peu de magie, c'est marrant, vous me parliez de magie. Ouais, pas mal de magie, moi, dans mon histoire. Pas fune. Artifice de Mathieu Mariol et Julien Ribas, bah oui, que je ne connaissais pas, mais c'est paru aux éditions Daniel Maguen. Artifice, un magicien en Algérie. Mm-hmm. Et c'est fort triste. Si je vous dis Houdini, vous me dites qui?
Je dois dire qui, autrement je vous aurais dit
ça
magicien.
Vous fait penser, ouais, c'est ça, Houdini, c'est Robert Houdin, en fait, son vrai nom.
Ouais, c'est ça.
1805-1871, le plus grand magicien français, le père de la prestidigitation moderne. Eh bien, ce monsieur-là, alors qu'il ne se produisait plus, qu'il était en retraite, il va être contacté par un ambitieux colonel de l'armée française qui va l'embaucher pour essayer de ramener la paix en Algérie parce qu'on est toujours dans la conquête, on est sous Napoléon III et on est toujours sous la conquête. Enfin, on a débarqué en 1830 en Algérie, mais dès qu'on commence à s'enfoncer à l'intérieur, imaginez-vous que les gens du coin n'ont pas envie que les Français les dirigent. Je sais pas pourquoi.
Sympa l'accueil.
Ouais, sympa. Quoi. On arrive là avec notre civilisation.
C'est fictionnel ou c'est
non. C'est là où c'est le plus terrible, c'est que ça ne l'est pas là. Il y a sûrement des éléments qui, eux, sont purement de fiction. C'est-à-dire que ça va permettre aux auteurs de mettre en scène la résistance menée par les Algériens, enfin les tribus, parce que j'ai du mal à dire algériens, parce que l'entité algérienne a été créée par le colonisateur, en fait. C'était les tribus du coin qui n'avaient pas envie qu'on les fasse chier, bref, et qui résistaient. Et notamment, le livre commence avec une scène très angoissante. On voit une colonne de soldats français qui rentrent dans un village pour apporter la civilisation, à coups de baïonnette et de coups de canon.
Et... faut ce qu'il faut. Hein.
Voilà, faut ce qu'il faut pour que ça leur rentre dans le crâne, bien du plomb dans la tête.
Nous sommes
ça.
Là pour vous.
Voilà, pour vous civiliser. Eh bien,
nous sommes venus en paix.
Les voilà, les soldats qui sont agressés, qui par des serpents, qui par des scorpions, etc., deviennent fous et se font, à qui mieux, égorger. Ils tombent par terre, on les voit s'ouvrir comme en leur chemise. Ils sont persuadés qu'ils sont couverts de bestioles. Velus et redoutables, et en fait, il n'en est rien, ils sont victimes d'un marabout. Et ouais, qui n'est pas, lui, à bout de ficelle, c'était facile, mais c'est... marabout, bout de ficelle, celle de cheval...
Oh bah ouais, une émission qui avait de la tenue.
Oui, une émission qui avait de la tenue, c'est vrai que je devrais faire gaffe en ce moment. Artifice, donc, artifice, l'armée française fait donc appel à Houdini pour se lancer, si vous voulez, pour montrer à ces sauvages qui ne veulent pas entendre parler de la civilisation française que notre magie, elle est plus forte.
D'accord.
Et Houdini, il est pas chaud, il voit bien. Puis bon,
sac d'emmerde, ça.
Ouais, sac d'emmerde. Et puis le délire colonial, ça le kiffe pas beaucoup. La grandeur de la France en tapant sur les gens, il est déjà pas très chaud. Et plus ça va aller, moins il va être chaud. Et alors, ça permet donc de raconter des aventures dont certaines rencontres qui sont sûrement fictionnelles, d'autres non, mais aussi de mettre en avant le rôle des femmes indigènes dans la lutte contre, comment dirais-je, l'invasion française. Parce que ce que l'on oublie, il y avait eu un excellent documentaire d'ailleurs sur Arte où ils avaient présenté à travers tout le monde colonisé par la France et les Anglais des figures de femmes qui se battaient en Afrique du Nord, comment dirais-je, en Afrique noire, etc., qui se battaient pour l'indépendance. Et là, on découvre le rôle de certaines femmes en Algérie, mais très très tôt, quoi, bien avant la guerre d'Algérie 54-62. Dès la conquête, les femmes étaient impliquées dans la résistance face aux Français. Et c'est l'occasion justement de faire vivre un personnage féminin dans cette histoire. Une histoire tragique, vous l'imaginez bien, parce que tout à son désir de moderniser le pays, eh bien effectivement la France ne fait pas dans la demi-dentelle. Et c'est ce que Robert Houdini va découvrir à travers ça. Alors on est chez Daniel Maguen, donc un grand et bel ouvrage avec de superbes planches. Alors vous voyez, comment dirais-je, Julien Ribes, je ne connaissais pas. Il est né en 81 au Pays Basque espagnol. Voilà, il a repris la scierie Remington chez Ankama. Spécimen de Waterhill, rue de Sèvres, ça vous dit rien, avec Morvan. Il a publié 3 tomes de Assaïra chez Delcourt. Ok, vous ne m'aidez pas. Et c'est pas grave. Et quant à Mathieu Mariol, eh bien, lui, c'est un traducteur de base. Et désormais, il se consacre uniquement à l'écriture de la bande dessinée. Et il a déjà, comment dirais-je, réalisé pas mal de séries de bandes dessinées, notamment une sur le PSG, c'est assez surprenant.
Ça fait très Fernandez, non ? Vous trouvez pas ?
Ouais, c'est là où je voulais en venir, avec un dessin. Ouais, ben, c'est vrai que vous avez raison, Fernandez est devenu un peu la référence, c'était chez Casterman, à travers tous les albums qu'il a réalisés sur l'Algérie, sur la guerre, etc.
Puis, sur Camus.
Ouais, sur Camus. Et bref, effectivement, pour un auteur ou une autrice, hein,
et bien, c'était juste un... Oh là là là.
Vous savez que... il compte, il y en a qui comptent ici à Canal B, et on nous a dit, à la première approche à la carta, on vous fout dehors, on vous foutient le dimanche matin pour vous apprendre.
Oh non, pas le dimanche matin.
Juste avant
la messe.
94 degrés à l'ombre, c'est presque la messe. Ouais. Voilà, donc on a intérêt à se tenir à carreau. Artifice, et en tout cas, c'est très 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 intéressant au niveau du scénario, on découvre un pauvre Houdini sur le retour, qui voulait plus se produire, qui est amené à se produire, et qui rencontre de grosses difficultés. Ça serait bien peut-être espérer rencontrer le scénariste Monsieur Mariol à Quai des Bulles, allez savoir, comme c'est Emmanuel Klein qui nous
pas
envoie
impossible.
Ça, ce
pas
n'est
impossible.
Pas impossible. ça serait bien de le rencontrer, qu'il nous en dise plus, effectivement, sur le père Houdini.
Interlude musical?
Yes.
Super Sucker.
Ouais.
This album is dedicated to the good fuckers and those who want to be good fuckers.
Les Super Suckers, je reconnais, on pourrait nous dire, vous n'êtes pas vraiment à la page. Mais bon, on a l'âge de notre playlist, quoi, voilà, je veux dire.
Tout à fait. Ce morceau-là n'a pas pris une ride.
Ben voilà.
Je veux bien de la nouveauté, de la
nouveauté. Oh, c'est fini, oui, les jeunes.
Ah, putain, de boue.
Les trucs à la mode.
Ouais, Génération Z. On vous emmerde, la Génération Z.
Tiens, c'est pour ça que mon deuxième manga, c'est aussi une réédition, tu vois, voilà, d'un vieux truc.
Eh ben, vous avez bien fait.
Résistons, Roger.
Voilà.
Mère de jeunisme. Tokyo Babylon. Alors, j'aurais peut-être dû quand même un peu me méfier quand elle m'a dit tiens, tu devrais lire ça.
Qui vous a dit ça, Esmeralda?
Non, je ne donnerai pas de nom.
Matador.
Non, je ne donnerai pas de nom. Mais en fait, parce qu'on m'a refilé un shoujo, c'est-à-dire une BD pour filles. Mais en fait, que j'ai trouvé vachement bien.
Vous êtes vraiment un ballot.
Oui, j'aurais dû me méfier.
Le premier tome. Elle vous a fait le coup, elle a cligné de l'œil.
Non, mais elle m'a tendu une espèce de petit A5 avec, il y en avait deux. Il y avait un avec un super fond rouge qui pétait bien et l'autre avec un super fond jaune. Et deux petits personnages, effectivement. On sent quand même qu'on est dans le manga des années 80, 90, mais charmant. C'était un piège. Mais en fait, j'ai trouvé ça plutôt super bien. Alors, c'est des rééditions, en fait.
Ouais, et
c'est chez qui, ça? C'est Pika Édition. Pika Édition vient donc de ressortir deux tomes. Il y en aura sept de Tokyo Babylon. Et il y a d'autres séries, en fait, des ateliers, du collectif Clamp. En fait, c'est tout un collectif d'autrices japonaises qui ont créé dans la fin des années 80.
Moi, je 80. Dis chapeau.
Ils ont créé une espèce de collectif, quoi, pour offrir une bande dessinée féminine, mais qui a aussi des qualités esthétiques et en fait qui n'est pas branchée que sur les romances. Qu'est-ce qu'il y a?
Vous avez dit mais et qu'il y a des qualités esthétiques.
Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des qualités esthétiques. Oui. C'est un très beau dessin qu'on va avoir là. Alors, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de Tokyo Babylon, c'est l'histoire de Subaru. C'est un jeune gars d'à peu près 16 ans. Il appartient à un clan, les Sumeragi de Kyoto, et puis il est exorciste. En fait, il est exorciste chaman, voilà. et il officie à Tokyo. Donc on va le suivre à travers différentes opérations d'exorcisme qu'il va devoir effectuer. Alors il est accompagné de sa sœur jumelle. La sœur jumelle, c'est l'espiègle, tu vois. Elle le turlupine, elle l'embête, elle le pousse au cul, elle le surveille. Parce que bon, il est pas très sûr de lui. Est-ce qu'il veut devenir vraiment le big boss exorciste de son clan, la tradition, tout ça, c'est le 13e. Il a des doutes. Et puis, autre personnage, il est accompagné d'un vétérinaire, voilà. Un peu mystérieux, dont on apprendra que lui aussi descend d'un clan, on va dire ça comme ça. Puis c'est marrant, ils ont une espèce d'homo-romance, en fait. C'est un couple, ils se draguent, en fait. Et surtout, le vétérinaire drague notre personnage principal. C'est assez
déroutant. Il a quel âge, le vétérinaire?
Il a l'air un peu plus grand. Il a l'air un peu plus âgé. C'est vrai que c'est le côté un peu troublant du truc. Mais bon, ça reste très chaste. Hein. Ça reste très chaste et très sentimental. Ce qui est intéressant, c'est donc on va le suivre à travers ces histoires d'exorcisme. On sent qu'il va y avoir quelque chose au fait que les deux personnages sont, disons, chacun d'une famille un peu à la Montaigu, à la shakespearienne, deux familles qui se combattent, en fait. Et on sent que il va y avoir une opposition qui va s'imposer. Alors, en tout cas, c'est très bien dessiné aussi, et j'ai trouvé ça très moderne, en fait, dans les thèmes qui sont habités. Parce qu'à chaque fois, donc, il va faire un exorcisme, et le but, c'est de trouver pourquoi l'esprit vient hanter tel lieu, etc. Donc tu vas découvrir des histoires, des tranches de vie de ceux qui sont devenus des fantômes, quoi, ou des esprits. Tu vas chercher la source de leur colère ou de leur désarroi, enfin, et ça te renvoie à des tas de situations. Et en fait, pour une BD des années, des 90, c'est déjà des thèmes hyper moderne, quoi. Le harcèlement de rue, la condition féminine, l'écologie, enfin, à chaque fois, il y a des enquêtes qui nous amènent sur des drames qui font réfléchir
et
à ces thématiques-là.
Et plusieurs histoires différentes. C'est un vrai.
Exactement. Voilà, le truc de fond, ça va être l'entourloupe qu'il va y avoir émotionnelle, on va dire, autour du petit couple, le petit côté Roméo et Juliette,
oui,
quoi.
Le fil rouge.
Ouais, ça va être le fil rouge. Et puis, c'est ces enquêtes. Et graphiquement, c'est assez moderne, c'est assez punchy. Après, on retrouve... Tu retrouves tu sens que c'est un peu daté, quoi. C'est pas le manga actuel, mais moi j'aime bien ce manga des années 90 avec ses vrais des yeux encore assez très plissés. Ils ont pas encore pris cette rondeur que l'on voit beaucoup maintenant. La fascination pour les franges aussi. En fait, c'est vraiment très très chouette. Babylone, Tokyo donc. Le collectif Clamp aux éditions Pika, 2 tomes déjà parus, et si je me trompe pas, il y en aura 7. Et si vous êtes sensible, regardez juste à côté, il doit y avoir d'autres histoires, d'autres aventures produites par les studios Clamp. Et il paraît même qu'ils sont un peu comme dans Marvel, ils ont fait des tas de passerelles entre leurs différents univers. Tu peux les lire indépendamment et en même temps retrouver des allusions à d'autres histoires, et retrouver des personnages dans différentes histoires. Bref, voilà. Et ça aussi, c'est de la réédition. Les vieux ne sont pas forcément has-been.
Alors,
on en parle encore.
Eh ben justement, puisqu'on fait chez les vieux, ben je vais rester dans l'histoire. Voilà,
rien de tel que l'histoire.
Voilà. Allez, tiens, un ouvrage que l'on doit à Monsieur Pau.
J'aime bien Monsieur Pau, l'espagnol.
Ouais, les 5 drapeaux.
Les petits chiens.
Tome 2 sur 5, La Fureur de Vie. Effectivement, parce que on est dans le cadre d'une BD anthropomorphique. Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous allez pouvoir me l'expliquer. Pourquoi parle-t-on d'une BD anthropomorphique lorsque on utilise des animaux pour figurer des hommes? Alors que, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des hommes qu'on représente, c'est des
animaux.
C'est
animalomorphique, vous voulez dire. C'est bien défendre de la cause animale, c'est bien, Roger.
Bah, je sais pas si c'est... Vous voyez, mais je trouve que c'est contradictoire.
Oui, je vois ce que vous voulez dire.
Et c'est l'autre jour, parce que j'essayais de
rédiger. On ramène la bête à nous.
Ouais, en fait, j'essayais de rédiger, vous voyez, un petit texte, comme je le fais chaque fois, un petit texte de 5000 mots pour ma chronique, écrit sans faute, naturellement.
Et, si vous voulez tout savoir.
Voilà, et anthropomorphique, ça me gêne. Bon, bref, c'est une BD anthropomorphique, du coup, tout le monde comprendra ce non-sens, à savoir que les hommes sont joués par des animaux, en l'occurrence des chiens.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et Monsieur Pau va nous raconter en 5 tomes. Alors pas que des chiens, il y a des lapins. On est dans le monde un peu de Calvo. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et il y a quand même, bon, il y a des espèces de bestioles qui ressemblent à des espèces de grosses souris, mais grosso modo, je dirais quand même que ce sont plus des canidés, hein, quand même, avec la truffe.
On est plus dans le canidé.
On est plus dans le canidé, avec la truffe qui brille, etc.
Avec ce petit côté cartoon que vous avez.
Voilà.
Bien.
Et ce qui ne brille pas, c'est que dans cette histoire, dans ces cinq ouvrages, Monsieur Poe va nous narrer la vie de son pépé. Son pépé a la particularité, en plus d'avoir été républicain espagnol, d'avoir combattu pour les troupes républicaines contre les fascistes, eh bien va se retrouver d'abord donc effectivement sous le drapeau républicain espagnol, puis il s'échappe d'Espagne, se retrouve enfermé dans les camps d'exploitation en France, d'où le drapeau français, le deuxième. Le troisième drapeau, il va partir avec le corps expéditionnaire britannique lors de la bataille de Dunkerque. Donc drapeau anglais. Malheureusement, il est capturé par les Allemands. Il se retrouve aux travaux forcés, donc sous le drapeau nazi. Et enfin, il est envoyé en Espagne où il subit l'esclavage et la répression avec le drapeau franquiste. D'où effectivement les cinq drapeaux sous lesquels ont vécu le pépé de Poe.
Ouais, c'est chouette ça.
Dans le premier tome, on voit l'arrivée du grand-père en France lors de la retirada, vous savez.
Ouais, la grande fuite.
Et c'est horrible quoi, parce qu'on va vraiment stocker, donc les hommes et les femmes vont être séparés.
Paraît qu'il y avait des rouges.
Ah, et bah, il y avait du rouge. C'est peut-être aussi pour ça que le gouvernement français, puis il y avait Laval. C'était Pétain, le ministre des Affaires étrangères, le premier ministre des Affaires étrangères avec Franco. C'était Pétain.
Comment tu voulais que ça se passe?
Comment tu voulais que ça se passe pour eux? C'était forcé, c'était baisé, quoi. C'était couille. Et en plus, il était même pas encore président, futur dictateur. Bref.
Ils ont quand même réussi à fuir Franco pour une partie d'entre eux. Ils ont eu du bol quand même.
Et il raconte avec un luxe de détails, parce que le pépère, il notait tout. Pépère, il notait tout. Et le gamin, Poe, quand il était petit, il allait souvent en vacances avec son pépé. Et son pépé, c'était en Espagne. Ils avaient un grand appart où le grand-père accueillait tous ses petits-enfants, petits garçons et petites filles. Et le soir, en tricot de Poe, il leur racontait des histoires, etc., à partir de ses souvenirs. Et il se trouve que ce monsieur-là a tout bien noté, ce qui permet à Poe de tout nous raconter dans le détail. Et c'est pas brio en ce qui concerne le premier tome, l'arrivée des Espagnols sur les camps, sur des plages, quoi. On va les stocker sur des plages. Petit à petit, on va leur donner des poids, des tentes d'abord, après des toiles, des planches, etc. Pour essayer de mieux s'abriter. Puis il va y avoir des petits trafics, etc., qui vont se développer. Enfin bref, l'horreur. Après, là, dans le deuxième tome, le pépé de Poe, se retrouve enfermé dans une mine. La France vient de déclarer la guerre à l'Allemagne et il se retrouve enterré dans une espèce de grosse falaise, pas une falaise, qu'est-ce que je raconte, une espèce de mine qu'on leur fait agrandir, non pas pour en extraire du charbon ni quoi que ce soit, mais pour transformer le site en gigantesque lieu de stock
l'Imaginot. Quoi.
Ouais, genre stock d'armement. Au final, ça ne servira à rien. Et on voit donc effectivement le quotidien de Poe, du père, du grand-père. Mais alors c'est assez curieux parce que vous connaissez la rigueur française, on n'est pas dans un stalagme allemand. Et de fait, assez rapidement, les Espagnols.
Je sens venir la critique.
Assez rapidement, les Espagnols vont réussir à faire des trous.
Ah, l'Espagnol, ça creuse.
Ça creuse. Et du coup, c'est génial parce qu'ils vont au bal. Ils s'échappent du camp où ils sont et ils vont au bal.
L'Espagnol, ça va au bal.
Ils vont au bal dans le bled du coin. C'est marrant. Ils draguent des nanas et tout ça. Ils se créent des idylles. Ils vont chez le dentiste. C'est assez surprenant. On y voit encore toute la rigueur de l'administration française. On est mauvais, mais on se donne pas les outils pour notre méchanceté. Tant mieux pour nos victimes, quelque part. C'est magnifique. Alors, c'est marrant parce que il fait vraiment œuvre d'historien, là, ce dessinateur, parce qu'à chaque fois, à la fin de chaque ouvrage, eh bien, on a un petit dossier. On a un petit dossier avec des photos, des rappels historiques, etc. Et il nous raconte comment, effectivement, Calvo, la bête, est morte, là, profondément marquée. Il parle ici aussi Maus, parmi les ouvrages qui l'ont marqué pour faire cette fameuse BD anthropomorphique. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, il est coco, le pépé de Poe. Et à un moment donné, on voit Pif le chien Et il le dit d'ailleurs à la fin. À Pif le chien, tous les jours, dans l'Humanité, bande quotidienne de 1948 à 1952. Clin d'œil au chien, la bande dessinée franco-belge. Et c'est marrant. Et donc, il va y avoir plusieurs clins d'œil. Il va y avoir Milou, on va retrouver Milou, le chien de Tintin. Il y a également Rantanplan, le compagnon de Lucky Luke, qui fait partie des prisonniers espagnols. Et Idéfix également. Et Pif, naturellement.
Ah ouais. Alors je vous montre, enfin vous me montriez quelques pages, c'est marrant parce que je me souvenais, moi je l'ai connu avec une série un peu plus fantasy, héroïque fantasy, Atlas et Axis. De petits chiens.
C'est vous,
dans un
qui nous aviez fait découvrir cette fabuleuse auteur. Et alors c'est marrant.
C'était très coloré et là c'est très.
Sépia. On est dans le souvenir, donc on a l'impression qu'effectivement de feuilleter un livre d'images en compagnie de l'auteur.
Il y a, je trouve, les jeux de lumière sont hyper forts.
Ah non, c'est superbe. C'est un superbe ouvrage avec.
C'est niveau Riffreb.
Et comment ce qui est rigolo, c'est que parce qu'il y a plus d'aplats que dans Riffreb. Regardez, il est moins sur les, vous voyez les.
Au niveau des lumières, des lumières, des éclairages.
Peut-être, ouais.
Moi, je trouve que c'est fort, quoi.
Et oui, c'est fort, certes. Et mais vous savez, on est plus dans le gris, tandis que là, regardez, on est vraiment dans la moitié le jaune. Il y a un peu de fond jaune derrière.
C'est bouillasse.
C'est bouillasse. Des couleurs bouillasse. Ils vont au bal, ils reviennent du bal. Et c'est très drôle. Et naturellement, comme dans toute bonne BD anthropomorphique, eh ben, ils ont des petits gonds. Et ils ont quatre doigts, comme chez Monsieur Gers et Pichelin de l'excellent Ratiche Poche.
Ben voyons. En vente dans toutes les bonnes librairies.
C'est chez Paquet, les 5 drapeaux, le tome 2, c'est magnifique, regardez, dos toilé, avec un signet.
Un signé, ouais.
Bon, je le rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, vous savez, c'est une espèce de ficelle colorée. Le petit ruban qui sert de marque-tapage.
Très bien.
C'est magnifique. Les 5 drapeaux, peau, tome 2 sur 5, la fureur de vivre.
On sait combien il y aura de tomes de ça ?
Ouais, 5.
5 ? Ah ouais. Oui, bah oui, un par drapeau. Okay.
Voilà.
D'accord, j'ai compris le concept. C'est pas parce que c'est vieux que c'est nul, faut arrêter ces conneries.
Voilà, vous avez bien raison. Watch what I do when I swim with the sharks. A new race and a new way to race. Feel ashamed as I live a disgrace. G-G-R-M, living in a bear cage. G-G-R-M, living in a bear cage. They never told me what was the truth. Just a young man losing his youth. Sell cows, sell meat, selling it. Save up just to live like a king. G-G-R-M, living in a bear cage. G-G-R-M, living in a bear cage. Bear cage. Bear Brussels and Amsterdam. Give me back my summer and Dresden, man. But they still got these police over there, drawing lines on a map just to show I'm there. G-G-R-M, living in a bear cage. G-G-R-M, living in a bear cage. Bear cage. Bear cage. Bear cage. G-G-R-M, living in a bear cage. G-G-R-M,
on a beau dire, mais les Stranglers, ça reste toujours très, très bien.
Eh oui, mais bah c'est oui, vieux. Bah oui, tout bah doit oui. disparaître, vous savez comment c'est.
Alors, j'ai trouvé une BD qui est vraiment, sur le plan graphique, est très ambitieuse et très surprenante. Je l'ai montré d'ailleurs à un des... Vous savez le type qui traîne tout le temps, là, dans les couloirs ? Le ouais, chauve, là. Ouais. Sympa, hein, sympa au demeurant, mais...
Bah, je lui parle plus, moi.
j'ai montré ça et il était un peu d'accord avec moi. Il y a presque trop de talent, graphiquement parlant, dans l'album de Laurie Augusti, qui s'appelle Rouge Signal. Elle vient de la jeunesse et là, elle propose un récit très adulte, hein, aux éditions 2042 ou 2042, je sais pas comment on dit.
Moi, je dirais 2042, je le sais, parce que j'allais vous parler tout à l'heure de La physique pour les chats, un livre de Tom Gou, et c'est paru également aux éditions 2042.
Comme quoi, ça doit être une... Il va falloir qu'on s'y intéresse et qu'on suive un peu ce qu'elle fait, parce qu'elle est ambitieuse, alors, cette maison d'édition. Alors, cet album est très ambitieux. En fait, c'est une juxtaposition de deux récits de vie. Le premier des récits de vie, c'est en fait quatre femmes qui travaillent dans une onglerie. Elles font du nail art, c'est-à-dire elles te magnifient tes ongles, te font des petits Pikachu dessus si tu veux. C'est les artistes de l'ongle, du vernis.
Vous avez fait, vous, déjà ?
Non, jamais, bon. jamais. Mais
ça
n'a
pas des agréables, il faut le porter après.
Tout à fait. On parlera chiffon plus tard. On est là pour parler BD. Et donc, elles vivent dans un monde très coloré, quoi. Et elles sont vraiment, elles se soutiennent. Tu sens qu'il y a une relation affective très très forte. Elles forment vraiment un collectif. C'est une sororité qui respire la joie et la joie de vivre.
Alors là, moi, je dis, j'applaudis de nouveau. Sororité. Ah, mais nous, on va être plus 20, plus 20 points.
On va être sur une thématique très sérieuse, mon Roger, parce que de l'autre côté de la rue. Qui lui aussi bosse dans la couleur, mais plutôt dans la peinture. Lui, il vend des pots de peinture, des sprays, etc. Il fait dans l'équipement artistique, et notamment donc la peinture. Il y a un type qui s'appelle Alexandre, et lui, c'est tout le contraire de ses meufs. C'est un type très solitaire, qui passe beaucoup de temps sur Internet. Il est dans un vide affectif et sentimental très fort. Il parle à quelques gars au boulot, mais c'est
et
des discussions...
Et à son ami imaginaire.
Non, pas du tout, et surtout aux réseaux sociaux. Et on va suivre la dérive de ce gars-là, qui regarde par la fenêtre l'onglerie régulièrement et qui voit ses femmes heureuses. On va voir comment il va peu à peu dériver vers du masculinisme, quoi, et du masculinisme revendiquant.
Parce que ça me fait chier de voir les gens heureux.
Exactement, surtout si c'est des filles. Donc, tu vois, c'est un thème très moderne, tu fais le malin, mais c'est un sujet quand même très fort. Et la montée en tension, vraiment, tu sens que, enfin, le Alexandre, tu sais qu'il va vers le craquage, quoi. Tu sais qu'il va faire, le con. Et que c'est les filles d'en face qui vont prendre. Vraiment, c'est un vrai thriller, un vrai polar à ce niveau-là. Et puis alors, c'est graphiquement, c'est entre le génie et presque trop le génie. Heureusement qu'il y a les dialogues en fait pour suivre le récit, parce que graphiquement, on va vers quelque chose de très coloré, de très vraiment très découpé et des jeux de cadrage de dingue. La construction est super élaborée, c'est presque surdécoupé même des fois. C'est-à-dire que tu vas suivre des discussions par un moment. À un moment, il y en a une qui tire les tarots à l'autre. Et donc, tu vas avoir les bulles qui te racontent la discussion des deux filles, la prédiction. Et tu vas avoir une page tout éclatée. Alors, plein de petits, un gaufrier tout éparpillé, tout est très cubique ou rectangle. Les vignettes sont découpées comme ça et c'est le cadrage à l'intérieur. Tu vas zoomer sur des tas d'indices. Tu vas voir la figure du roi, d'une carte, un bout de doigt, etc. Tout est toujours très cadré de manière très surprenante. Des fois, t'as des dialogues, en fait, tu vois le haut de la tête des personnages, notamment des filles, parce que tu les reconnais à leur coupe de cheveux. Tu vois, vraiment, il y a des jeux.
À un moment, il y a une... Alors, j'ai pas vu parce que vous me dites ça.
Mais en fait, c'est hyper déroutant. Oui. Okay. Attends, je vais t'en montrer une à un moment où on voit notre personnage d'Alexandre qui est penché sur son téléphone et qui essaye d'engager, qui parle avec une stagiaire. Regarde-moi ce découpage de fou. Tu vois l'écran et
c'est bien vu parce qu'effectivement quand on est sur un putain d'écran, on voit
tout est cubique. Ouais. À un moment, il y a une double page où c'est un gaufrier. C'est deux gaufriers où c'est que pouf, un aplat de couleurs, un truc très flashy et c'est en fait tu vois découvres que c'est une des nanas qui est en train de présenter les différents vernis. Donc tu vois rouge, magenta, automne, hiver, etc. Et t'as juste pof, un gros aplat de couleurs dans un truc très très carré. Vraiment, c'est graphiquement c'est très déroutant. Tiens, c'est la scène des cartes. T'as vu ?
Ah bah oui, on voit plus.
Et il y a presque un côté Colto Maltese des fois, je trouve, dans ce cadrage des bouches et des
alors,
choses comme ça.
C'est marrant parce que c'est comme si on était du coup en caméra subjective.
Ouais.
On voit davantage.
Tiens, ça c'est le truc des couleurs.
Ok. On voit davantage ce que voient les héroïnes plutôt que de voir les héroïnes elles-mêmes.
Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc le récit est passionnant et vraiment d'une, enfin d'une inventivité graphique
rare.
Ouais, déroutante presque déroutante parce que alors là on est vraiment très loin du tu sais du récit de BD quoi. Et pourtant on va te raconter une histoire et une histoire très très forte. Donc vraiment Rouge Signal, ça s'appelle, si j'ai bien compris, c'est le nom justement d'un vernis avec un rouge bien pétant, est un coup de génie de Laurie Agusti et c'est aux éditions alors 2042. Confirmation par Angers.
Oui,
Information validée.
Édition 2042 qui s'appelait avant, lorsque j'avais chroniqué un ouvrage précédent de Tom Go dans ces mêmes susdites éditions, ça s'appelait édition 2024. Et on posera la question d'ailleurs si les gens de la librairie dont nous tairons le nom veulent bien revenir parce que vous savez en ce moment on est un peu dans la loose Plume et moi.
Mais faites pas ça, on a l'air de rien là. Ça
les
va
gens,
quoi.
Les gens crachent sur notre passage. Les gens crachent.
Oh, mais comment vous êtes?
Qu'est-ce que je vais être un peu déprimé.
Vous victimisez là Roger.
Sauf que heureusement pour nous remonter le moral, quoique parfois ça nous amène à beaucoup de réflexions. Un magnifique ouvrage de Monsieur Soulcier, Dans la tête d'un dessinateur de presse, signé et publié aux éditions XP Éditions. Je connaissais pas. Gros bouquin bleu. Il a été prépublié avant. Enfin, c'était pas prépublié, mais vous savez, il a bénéficié d'un financement, etc. Et après, il s'est débrouillé pour le publier avec les éditions XP, Tiroulis, Tiroula. Bref, c'est un ouvrage sur lequel il a travaillé pas mal de temps. Il faut savoir que donc Monsieur Soulcier participe à nombre de journaux.
Tout à fait.
Dans lequel il y a Mediapart par exemple, il est aussi chez Ruffin, il est dans Fakir de Ruffin pour ne citer que ces deux-là, et comme en plus un peu aussi de presse régionale, de Télérama également. Bref, il fait pas mal de choses dans le dessin de presse. Il est connu aussi pour la bande dessinée. Hein. Il a écrit une bande dessinée, au moins une en tout cas que je lui connais, que j'avais chroniqué en compagnie de Monsieur Bernstein sur les super-héros. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Faites confiance à Bernstein, il sait choper les petits jeunes qui promettent.
Ouais. Et là, Monsieur Soulcier, alors il faut se méfier, hein, vous savez, là il se dessine effectivement beau, blond, musclé, etc. Peut-être qu'il est tout petit, rabougri et chauve, comme tous ceux qu'on connaît d'habitude et qu'on croise à Kélébule, pas étonnant que je ne les reconnais pas. Et donc du coup, là il se dessine sous un angle avantageux, mais bon, faudrait voir ce qu'il
Magie
en est.
Magie de l'image.
Faudrait voir, voilà ce qu'il en est. Et c'est absolument, par contre, génial. Il se livre dans la tête d'un dessinateur de presse, Monsieur Soulcier, à une introspection sur son métier, le sens de son métier, la façon de travailler, etc., etc. C'est totalement fabuleux. Alors, c'est séparé en différents petits chapitres. Ils ne portent pas leur nom, d'ailleurs, c'est pas pratique. Il a fallu que je mette des marques tapage comme ça à chaque fois pour bien les repérer, pour pouvoir vous redire de quoi il s'agit effectivement, vous voyez. Mais à chaque fois, il y a une espèce de petite page colorée qui indique qu'effectivement, fin du cours, on va passer au cours suivant, vous voyez. Et ça se termine d'ailleurs toujours par un extrait de dessin paru notamment dans Télérama. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte Soulcier ? Soulcier, il le fait bien, c'est-à-dire que ça ne va pas être trop didactique, ça ne va pas être trop chiant comme la mort, oui, etc. Et tout. Non, ça commence comme ça. On est France Inter, il est 7h, bienvenue si vous nous rejoignez, on est lundi. Et on voit une petite fille qui dit à papa, à son père, « Coucou papa, chut ! Oh non les enfants, on est lundi, vite sauvez-vous ! C'est le jour du dessin des précèdes !» Le lundi, je dois envoyer mes esquisses en actu à un new magazine hebdomadaire à 15h. Et on le voit, il boit un café avec des binocles de soleil. Ceci est mon histoire. Ma mission est simple, régaler le monde de mes nouvelles blagues sur le monde. Nouveau jour, nouvelle feuille. Et puis, on voit effectivement, il va avoir sa façon à lui de nous parler de son métier. Et on va comme ça découvrir plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc là, premier chapitre, voyez là, c'est, il va nous parler de la course sur la contre la montre, H-7. Là, il fait encore le con. On voit qu'il écoute des actus. H-3, il se repose sur son canapé. H-3,5, il s'enfile un gros paquet de MMS.
C'est marrant, ça a un côté comme pouvait faire Bouzard, en fait. La difficulté à tenir les délais pour produire, etc. C'est des délires à la Bouzard un petit peu. Mais alors, c'est très marrant parce que il y a très peu de vignettes par page. Alors l'album fait
4.
Voilà, 3-4 des
trois,
fois,
quatre, si tu, parfois une,
parfois deux.
Ouais.
Les dessins sont très gros, ça donne un côté très enfantin.
Et ça, c'est très très bien parce que on est dans le style du dessin de presse, c'est-à-dire qu'il a réutilisé le style qu'il utilise d'habitude pour parler de dessin de presse. Et on voit moins 45 minutes, il est toujours HS, etc., etc. Ça, c'est le premier chapitre. Mais après, il va nous parler de plein de choses. Par exemple, deuxième chapitre, la représentation. À quoi ressemble un Français? Et il nous présente ça par le biais d'un espèce de petit cours qu'il fait à sa fille. Il dit, tiens, regarde, tu sais ce que c'est? Ah non, t'as pas la ref, c'est un riche, selon les conditions, les conventions du 19e siècle. C'est-à-dire un gros bonhomme avec un paquet de sous, façon Picsou. Mmh. Voyez, mais la gamine, ça lui parle pas parce que, effectivement, elle a pas forcément ces références-là. Mmh. Et à partir de ça, non seulement il parle de la façon qu'on a d'avoir des images, mais aussi quelles vont être les réactions des gens. Parce que si par malheur, il décide d'un chinois avec un chapeau pointu, pouf, il va y avoir 250 000 followers. Ouais, monsieur Soulcier, on pensait que vous étiez sorti des
ouilles,
clichés.
Parlez houille, pendez-le.
Vous voyez, ça devient de plus en plus taré et ça devient très très difficile. Donc,
veux nous dire qu'en fait, il en profite pour nous glisser des vraies descriptions du monde de la presse.
Pas seulement de la presse, mais aussi par exemple sur l'éducation, l'image. Il dit quelque chose que tous les profs dit, c'est qu'effectivement, c'est ce qui a valu la tête du pauvre Samuel Paty d'ailleurs. Les gens ne savent plus lire une image. Et ils symbolisent ça par Soulcier en vélo, qui est dans le sens, dans le bon sens, sur une piste cyclable. Et il y a un connard en face qui débarque, il dit quoi, il y a un vélo dessiné. Mais putain, le pictogramme du vélo, il est dans ton sens. Non, t'es à contresens. Tu vois, en fait, on ne sait plus lire un dessin. Pourquoi? En tout cas, c'est pas de la faute des profs, dont il dit le plus grand bien. Imaginons que vous soyez prof, et ça vous ferait sûrement plaisir de lire justement tout le chapitre qu'il consacre aux profs, parce qu'il débarque. Il débarque dans des classes et il raconte comment effectivement il se prend des bides sur bides sur bides, parce qu'effectivement,
c'est
les
marrant
gamins
parce
n'ont
que
pas forcément les refs.
Laurent Lefebvre a aussi abordé son thème dans son dernier Fox Boy. Et c'est vraiment, je crois, un truc qui plane maintenant, cette interrogation sur l'obstacle de la différence d'âge dans la compréhension des dessins.
Et même sur le format, quoi. Monsieur Soulcier n'hésite pas à dire peut-être qu'effectivement, le dessin de presse, peut-être que son avenir, c'est dans des choses comme dans la revue dessinée, par exemple, ou sous un autre format. Parce que, entre les pressions de la gauche et de la droite, il faut voir comment, par exemple, des gens qui se prétendent de gauche, comme la compagne de la Mélenche, avaient assassiné Coco pour un dessin sur la bande de Gaza. Vous rappelez, vous ne méritez pas notre haine, mais vous l'avez quand même. Enfin, j'en sais rien. Quelle horreur. Elle était Charlie il y a 4-5 ans, et aujourd'hui, elle prend sa haine Coco pour un dessin qu'elle n'a pas compris. Et c'est ça le problème, un des problèmes, effectivement, soulevés par le père Soulcier. C'est super bien fait, tout en humour, c'est très complet, ça met du temps. Un bouquin qu'on pourrait conseiller effectivement aux profs qui ont un cours sur le dessin. Peuvent inviter Soulcier aussi, je sais pas s'il se déplace, je sais pas où il habite. Je crois qu'il habite dans le sud-ouest, monsieur Soulcier, ça peut être facile.
Aucune idée.
En tout
cas,
ça s'appelle Soulcier dans la tête d'un dessinateur de presse, paru aux éditions XP, et je ne vous quitterai pas sans un excellent dessin de presse, justement paru dans Télérama. C'est marqué « Toute la France est occupée par la canicule, toute, oui, même la Bretagne ». Et on voit un astérix sous la loupe qui dit « Mais quelle idée aussi, enlevez-moi cette putain de loupe
!» C'est magnifique.
Tout le talent de Monsieur Soulcier en une case.
Ouais.
Et par contre, là, c'est beaucoup plus de pages.
Ah,
c'est magnifique. 25 euros, allez, c'est 25
c'est
euros.
Très
c'est
bien. Je veux bien vous l'emprunter.
Ouais, c'est même plus deux paquets de cigarettes.
Du coup, je vous ai même revouvoyé, tu vois. Vous voulez bien me le prêter?
Ça pète, monsieur Soulcier. C'est vrai que c'est de la BD, c'est vrai que c'est du livre, c'est vrai que tout ça, c'est des vieilles choses dont tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
On a l'âge de notre programmation musicale. Ouais. Ok, Emir Kusturica, c'est peut-être un peu ancien, mais me dites pas que c'était pas vachement bien.
Mais oui,
mais c'était
oui,
vachement bien.
Mais oui, ça n'a pas pris une ride.
Impeccable. Je vous propose, alors c'est pas un récit, c'est pas une BD, c'est plutôt un artbook, un gros one shot de 256 pages que
oui,
propose Glénat, ouais, pour mettre à l'honneur un artiste. Venu des années 90, lui aussi, 35 ans déjà de carrière.
C'est un vieux, à l'âge de cristal, à 30 ans, t'étais mort.
Exactement, donc les jeunes ne connaîtront peut-être pas, donc ça serait bien qu'ils découvrent le monsieur, parce que c'est lui qui nous a quand même offert un support visuel pour imaginer l'héroïque fantasy des années 90, avec par exemple Chronique de la Lune Noire, une série qui vraiment nous a fait découvrir l'héroïque fantasy un peu gothique. C'est un artiste vraiment qui a toujours eu des séries graphiquement hyper impressionnantes où il y a toujours des tas de références culturelles à plein de contes, etc. Tu vas trouver des loups-garous, etc. Notamment, je pense, des pirates, des zombies dans Requiem, notamment des vampires. C'est plein de références et c'est vraiment une bande dessinée de science-fiction que j'adore. Alors c'est avec tout un long entretien avec lui, donc il va nous raconter toute sa carrière. Et puis alors moi vraiment le côté qui m'a le plus intéressé, c'est que vraiment c'est richement illustré et ça nous rappelle un peu en fait que le mec dans la BD franco-belge, l'heroic fantasy quand même, il compte. Il continue à travailler en plus. Normalement Requiem est reparti parce qu'il y avait eu 12 albums et puis comme une pause, on va dire, des problèmes de d'éditeur. Apparemment, il prépare des tas de trucs, notamment autour de Baudelaire. Ça m'étonne pas de lui. Bref, c'est un bel ouvrage. Alors, c'est pour fans. Je reconnais, c'est pour fans. C'est pour les mecs, quand même, qui ont un peu une playlist complémentaire avec la nôtre ou un peu inspirée.
Des sous, ça coûte combien votre affaire?
35 balles, mais c'est vraiment un très bel album. Avec tout ce qu'il faut dedans et puis surtout il est assez grand, 21-29.
Il s'appelle comment cet ouvrage?
Ça s'appelle La Nef des songes et la couverture est très belle. Il dessine superbement des visages féminins avec des gros yeux charbonneux et des lèvres pulpeuses. Graphiquement je kiffe. Tu aimes le dessin, tu aimes l'art, tu aimes l'héroïque fantasy. Laisse parler ton imaginaire avec Olivier Ledroit. Voilà, La Nef des songes, un très bel album paru aux éditions Glénat, un très bel hommage. Alors, il vous reste un petit peu de temps si vous voulez.
Ah ah ! Eh ben moi je vais vous parler de
pour résumer le dessin, ça va être rapide.
Bah oui, c'est sûr que là on n'est pas chez Moebius, hein, on n'est pas chez Druillet non plus, on n'est pas chez Monsieur Ledroit.
On n'est pas chez Ledroit non plus.
On est en Angleterre.
Donc ils savent pas dessiner ces gens-là.
Je vous ai déjà parlé de ce
monsieur. C'est pas vrai parce qu'ils dessinent, ils ont des trouvailles graphiques avec des trucs tout simples, ils te tout disent des grandes histoires.
Tout à fait, Thierry.
Un peu comme les gars du Schnorr, de Suède et tout ça.
Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est un monsieur dont je vous ai déjà parlé à propos d'un autre album, monsieur Tom Gold. Gold, G-A-U-L-D. Et Tom Gold a déjà publié un ouvrage, La Revanche des bibliothécaires aux éditions 2024, en 2022.
Et là, maintenant, c'est quelque chose.
Ben oui, bien sûr, je l'avais chroniqué. La Revanche des bibliothécaires, et ils l'ont édité en 2024 aux éditions 2022, qui s'appellent maintenant les éditions 2042.
D'accord. Ça fait écho à ma BD. Construction.
C'est ça, qu'est-ce que je vous dis, professionnel, mais ça, tout le monde s'en fout, moi, monsieur. C'est comme les bouts de femme. Tu finiras dimanche, et puis c'est tout. Voilà, on s'en fout. Parce qu'on dit, les vieux, ils sont réveillés le dimanche. Ça doit être pour ça. Tom Go, tous les dessins qui sont parus dans la physique pour les chats sont parus quand même, je tiens à prévenir quand même, dans la revue The New Scientist.
Oh là, ça sent le piège.
Ouais, on va dire que The New Scientist, c'est pas Valeur Actuelle, c'est pas le journal du dimanche.
Tu veux dire que c'est sérieux?
Ouais, quand même. New Scientist.
Dans tous les sens du terme.
Voilà. Et tout physicien, chimiste ou grand scientifique, du hard science, hard research, il rêve d'être publié dans The New Scientist. Et Tom Gold, je sais pas s'il sait résoudre des équations à plein d'inconnus, mais en tout cas, il est dans le New Scientist tous les mois, il faut quand même le souligner. Il y a que les Anglais pour inviter Tom Gold, un auteur de BD, dans leur revue. Sauf que, effectivement, il se plie à l'exercice. Et il se trouve que cet ouvrage, on ne va pas se mentir, fera davantage rire les amateurs de blouse blanche que les adeptes du film Camping. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas là,
je ne vais pas vous le survendre. C'est pour public averti, quoi.
Pour public averti, quoi. Genre, si vous avez une blouse blanche et que votre rêve, c'est de passer votre vie devant des éprouvettes, effectivement, bien. Ça, c'est bien. Et j'en veux pour preuve, c'est quelques extraits de... Alors, le dessin, effectivement, un dessin... minimaliste, mais un peu moins minimaliste que Monsieur Dubuisson, par exemple. Qui même sous la torture jurait ses grands yeux qu'il ne savait pas se dessiner. Vous vous rappelez, c'était une interview un peu surréaliste. Mais puisque je vous dis que je ne sais pas dessiner, si vous le savez, Tom Gold, lui, il sait vraiment, il ne le cache pas. Même si il se fait pas chier, il fait quand même pas mal de Madame Bâton. Parce que c'est bien plus pratique. On est dans le trait d'un autoté. Vous voyez, rappelez la belle histoire des colonies françaises, Grégory Jarry et autoté. On est un peu dans ce style de petit personnage, de petit bonhomme. Ouais. Ça fait penser un peu à Ototé. Et alors, ça nous donne des extraits. Alors, c'est soit... Donc, c'est des strips. Oui. Ça apparaissait tous les mois. Donc
à l'italienne.
Une case, deux cases, trois cases. L'italienne, ouvrage magnifique. Broché, d'eau toilée, la classe, que tous les je vous dise. Et on voit un papa scientifique. Alors, ces héros, naturellement, ils sont toujours en blouse blanche, forcément. Et alors, le père dit à son fils, « J'ai scanné sous le lit et dans le placard et les relevés du détecteur de monstres sont satisfaisants par rapport aux limites acceptables. Fais dodo maintenant, Timmy. » En fait, ils sont un peu... ça peut faire rire.
Je suis en train de chercher le nom de ce dessinateur américain qui était paru dans Air Libre et qui avait aussi des scientifiques. Il avait des chiens, il avait des vaches, il avait des obsessions comme ça.
Gary Larson.
Ça me fait penser à Gary Larson, votre truc.
Ouais, parce qu'on est dans l'humour anglo-saxon, mais Gary Larson est américain. Mais alors, par exemple.
Mais il y a des blagues sur la science aussi chez lui.
Oui, c'est vrai.
Dans un de ses univers, c'est aussi celui-là.
Ouais.
Avec des boutonneux à lunettes.
Allez, je vous en fais une autre quand même pour le plaisir. On voit deux tout petits bonhommes à côté d'un lapin géant dans un grand laboratoire et le monsieur dit à la dame, à la scientifique, soit notre sérum de croissance est un franc succès, soit le réservoir d'hallucinogènes fut à nouveau. Et ouais, il faut être anglais pour aimer ça. C'est pour ça que les Anglais, ils gagnent à chaque fois contre nous, parce que, ils sont drôles, quoi, les Anglais. Effectivement, ils ont un système de santé de merde. Ils ont des dirigeants qui sont pas toujours tip-top, mais ils ont encore une reine, allez savoir pourquoi.
Un roi
en ce moment.
Mais
ils ont quand même, avant toute chose, un humour qui défie,
parce qu'ils sont sous la pluie.
Vous croyez que c'est ça ou c'est la bière ?
C'est ça, non, c'est la pluie.
Allez, un dernier petit quand même pour la route.
Rester propre.
La chercheuse découvrit avec effroi que les messages envoyés par des civilisations extraterrestres depuis des systèmes solaires inconnus ont tous atterri dans son dossier spam. Et la physique pour le chat, pour les chats. Alors pourquoi la physique pour les chats? C'est parce qu'au dos de l'ouvrage, on voit une station spatiale avec un petit chat dans l'espace, avec un petit costume, un peu comme Milou, mais là pour un chat. Mmh. Et un cosmonaute dans la station qui dit à son chat, déjà, mais tu viens à peine de sortir. Bah oui, parce qu'effectivement, un chat, ça rentre, ça sort, même dans l'espace.
Ça aussi, je veux bien vous l'emprunter.
Voilà, la physique pour les chats, un livre de Tom Gold paru aux éditions 2042. Rien qu'un mot, c'est superbe.
Ouais. Il nous reste le temps pour un dernier petit morceau. Les Horse Girl Switch Over.
Switch over.
Ce morceau est magnifique. Une dernière rêve de vieux.
Alors, une dernière brève de vie. Oui, parce que ça a déjà, bah, effectivement, ça a 26 ans, ça s'appelle South Park. Et c'est devenu, quelque part, un des éléments de résistance à l'offensive trumpienne sur les médias. Mmh. Et il se trouve que, tout à fait par hasard, il y a quelques temps, ils avaient publié un épisode où Cartman s'inspire de Kirk. Vous savez, Kirk, celui qui a été buté dans un pays où, malheureusement... Alors, c'est marrant, parce que... Enfin, c'est marrant. Ce qui est quand même assez ironique dans l'histoire, c'est que c'est un monsieur qui défendait le port d'armes, grâce auquel son tueur a pu se munir d'une arme hyper moderne, hyper précise, que même si t'es complètement aveugle, tu peux pas rater tu peux rater personne. Bref, ben voilà, on peut pas non plus défendre les armes et s'étonner de périr par elles, quelque part, j'ai envie de dire. Et d'autre part... Donc on voit un épisode de South Park, je l'ai vu, c'est passé sur Paramount Plus, et je l'ai pas compris vraiment parce que j'avais pas cette référence, je connaissais pas moi Charlie Kirk, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Et donc
bah, c'est surtout tourné vers les Américains, ce que
fait Charlie Kirk. Et donc je vois l'épisode où effectivement il y a d'abord un gamin qui fait ça, Cartman se fâche, c'est moi qui fais de la merde, c'est toujours moi qui fais de la merde, qui dit des saloperies sur les gens. Bref, on voit un combat entre Cartman et un autre de l'école autour de ça. Et ben pour la première fois, Comedy Central vient de mettre de côté, on va pas dire censurer parce qu'ils ont pas dit censurer, cet épisode précis parce que
Pas si bien que ça.
C'est quand même la première fois. S'il y avait eu un autre épisode qui avait posé problème, c'est quand est-ce qu'on allait voir la tête ou pas de Mahomet quand tous les habitants de South Park se mettent la tête dans le sable pour pas voir la tête de Mahomet, vous rappelez. Et cet épisode avait posé problème, et là Charlie Kirk pose problème et nouveau problème encore pour South Park, alors que les créateurs de ces célébrissimes dessins animés cultes se targuent de pouvoir réaliser un épisode en une poignée de jours, eh bien, là on est en retard, le prochain épisode on aura du retard pour la série 27, puisqu'on est à la série 27. Était-ce peut-être parce que l'épisode qui était prévu était par trop ?
Non, j'en sais rien. Non, quand même pas.
Alors j'ai quand même vu dans cette fameuse série 27 un épisode où on voit, vous savez, le dingo là, qui est la patronne du Heist.
Il y en a plein.
Oui, c'est vrai qu'il est entouré de dingos. J'aime bien aussi...
C'est lequel des dingos ?
C'est celle qui a tué son chien.
Ah oui, je vois la tête.
C'est la patronne de ICE. Mmh, et on la voit.
Truc de police des frontières.
Ouais, et on voit pas Monsieur Garrison, le CPE. Le CPE qui se retrouve embauché par le ICE parce qu'il est viré de. Il a été viré par le proviseur. Et il va bosser chez ICE. Et on voit la chefesse de ICE. Et en fait, elle est comme le masque. Elle a un visage maléfique, en fait. C'est pour ça qu'elle est mauvaise. Elle a une espèce de visage maléfique. Et autre plaisanterie, on la voit buter des chiens chaque fois qu'elle voit des chiens. Et j'ai vu aux infos un témoignage de cette bonne femme-là qui dit « Oui, moi j'ai pas vu de ce dessin animé, là de toute façon c'est une merde, je regarderai pas ça, mais c'est une honte pour me décrire comme une tueuse de bêtes, j'en ai tué que deux de bêtes. Mon chien et ma chèvre. Mon âne, je crois qu'elle a tué son âne aussi, je sais pas pourquoi. » Et donc bref, à chaque fois qu'elle débarque et on la voit, elle tue les petits poupies, elle tue tout le monde, c'est un pissé de rire. Et ça plaît pas chez... C'est comme en Trump, on imagine bien. Et on voit Trump, effectivement, avec une petite quéquette en train
depuis qu'on a eu le prix de la paix, tu sais, depuis qu'on a eu le Nobel de la paix.
Justement, c'est ça qui le
nerve. Mais oui, mais c'est doux. Il en voit. Il veut donner une belle image. On peut pas plus supporter
bref,
ça.
Comment Trump aura-t-il la peau de South Park ? Vous le saurez en suivant les informations, comme nous d'ailleurs, et ce sera sûrement pas une bonne nouvelle de plus.
Voilà qui vient clore cette 508e émission de Plume et Pinceau. On libérera et on fera revenir bientôt les gamins.
Yes.
Je sais pas lequel va être là.
S'ils veulent revenir.
On verra. Le premier qui sortira du trou viendra avec nous. Retrouver toute notre programmation. Toi qui es jeune, si tu veux retrouver notre programmation musicale qui te ne dit rien mais que t'as trouvé super, tu vois sur notre blog. Si tu veux nous envoyer des chroniques, tu vas sur notre blog et tu auras une adresse. Et puis, si tu veux retrouver les coordonnées de tous ces excellents livres chroniqués, tu vas sur notre blog. C'était Plume et Pinceau. Bonne lecture. Prends nos crochets. Bye. On remballe là, Roger. Ça sent, on remballe, non ?
Ah ouais, on remballe. J'allais me coucher.
À la semaine prochaine.